Saint François d'Assise et la miséricorde de Dieu. Voici une conférence de Suzanne Giuseppi Testu, auteur de l'ouvrage François d'Assise, le prophète de l'extrême, un ouvrage paru aux éditions Nouvelle Cité. Son intervention a été enregistrée à Pau, centre diocésain du Béarn, le 4 février 2016. François d'Assise et la miséricorde de Dieu, Suzanne Giuseppi Testu.
Alors bien sûr, vous l'avez compris, on va parler de François d'Assise, de Saint François d'Assise. Et François est probablement un des saints les plus humains. C'est un saint très humain. Moi, c'est son humanité que j'ai aimée. Avant d'aimer le saint, j'ai aimé l'humanité de François. Et c'est justement à partir de son humanité et de son chemin de sainteté que nous pouvons mesurer la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu envers François, mais aussi le chemin de miséricorde qu'il a fait lui-même, comment il est lui-même devenu miséricorde. Alors l'expérience de François est très proche de nos expériences humaines, ce n'est qu'un homme, très proche de nos limites et de nos difficultés. Et bien sûr, son expérience nous enseigne autant sur le plan humain que spirituel. Et son expérience, comme Jean-Michel vous l'a dit, est révélatrice de l'amour de Dieu et du potentiel divin que Dieu dépose en l'homme. Et c'est une chose, on n'est pas toujours conscient de ce trésor que nous contenons, et François, à travers sa vie, ses réponses, ses actes, sa manière d'être, nous fait découvrir ce potentiel divin qui est en chacun de nous. De nombreux ouvrages sur Saint François ont été publiés, je crois qu'on aurait du mal à les compter, et on peut alors se dire, mais encore un ouvrage sur François. Alors je dis bien oui, je dis oui parce que je crois qu'il y en aura d'autres, parce que Saint François d'Assise est vraiment incontournable. Alors cependant, cet ouvrage n'est pas une biographie, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour le faire, et ce n'est pas non plus une hagiographie, c'est-à-dire que je ne fais pas un développement historique de sa vie et de sa sainteté. Ça a été fait des quantités de fois. J'essaye de montrer l'intemporalité et l'actualité de François d'Assise, et à quel point ses réponses peuvent être utiles dans notre monde actuel. Je crois que ça, c'est très important pour nous. Mais alors, mon livre traite donc de plusieurs sujets, de sujets très actuels, en prenant comme référence Saint François, et sujets qui nous concernent en tant que chrétiens, mais en tant qu'hommes et femmes, tout simplement. Tout simplement en tant qu'hommes et femmes, dans notre monde d'aujourd'hui. Ce livre nous situe aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous en donner une vue d'ensemble. Bien sûr, je ne peux pas tout vous dire, puis je n'ai pas intérêt à vous le dire, sinon vous ne l'achèteriez pas. Donc je vais essayer de vous en donner une vue d'ensemble. Donc il nous parle d'un homme profondément solidaire de son époque. Ça, c'est très important. Et qui porte en lui ses appels et ses problèmes. Alors il nous entraîne ainsi dans un approfondissement humain et spirituel de l'homme François. On découvre François, on découvre l'homme. Dans ce livre, François confronté comme nous au comment faire de sa vie, au comment faire de notre vie. Alors il nous pousse aussi à une intelligence spirituelle des événements de notre existence. En effet, nous ne savons pas toujours voir au cœur de notre histoire, au cœur de notre vie, nous ne savons pas toujours discerner la dimension spirituelle dans notre histoire. Et c'est fort dommage, parce que c'est ce qui nous ressuscite. Or, François nous apprend cela. Alors, il nous confronte, bien sûr, à la pédagogie divine. Et qu'est-ce que Dieu est en train de me signifier? On s'est souvent posé cette question, les uns les autres, sinon on ne serait pas là. Qu'est-ce que Dieu est en train de me signifier? Et nous montre que Dieu agit dans le cœur, dans les cœurs, en respectant la liberté humaine. Dieu respecte toujours la liberté humaine. Mais on le sait tous, nous doutons parfois. Eh bien, en écoutant François, en regardant son histoire, en se laissant pénétrer par ses écrits, nous nous apercevons que Dieu respecte toujours la liberté humaine. Et c'est au contact de la pédagogie divine que François va découvrir peu à peu la miséricorde. Alors la figure de François, on le sait, attire toujours un grand nombre d'hommes et de femmes et sa popularité est désarmante. Moi, je voyage, Jean-Michel vous l'a dit, je vais au Proche-Orient, je vais enfin, dans pas mal de pays, puisque j'anime des retraites dans les communautés religieuses. Je vais toujours avec mon taux, je ne me sépare jamais de mon taux, y compris dans les pays musulmans. Tout le monde connaît François. Tout le monde connaît François. C'est surprenant, c'est extraordinaire. Alors, on ne m'a pas coupé le cou encore, hein, mais je porte toujours mon taux, il n'y a pas de problème. Alors, il est très intéressant, mais il est très intéressant de découvrir que Saint François ne nous entraîne pas à sa suite. François ne dit pas « Regardez, je suis le Saint des Saints, regardez comme je suis bien, suivez-moi, vous n'aurez pas de problème. » Non, ce n'est pas ça du tout, François. Hein, il se tient en habit de serviteur pour nous conduire vers le Christ. Et Thaddée Maturin, le frère Thaddée Maturin, qui est, on peut dire, le grand exégète de la famille franciscaine, dit « Nous pouvons donc voir en François un doigt qui désigne un autre que lui. » Ça, c'est très important aussi. Alors, n'est-il pas celui qui, avec notre pape François, crie dans le désert de notre monde actuel « Ne nous laissons pas voler l'enthousiasme missionnaire. Ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation. Ne nous laissons pas voler l'espérance. » Je crois que si on est tous ici ensemble, vous et moi, c'est parce que justement, on n'a pas envie de se laisser voler ça. Sinon, à 8h30 du soir, on serait mieux chez soi, peut-être. On ne viendrait pas écouter ce genre de conférence. Et ne nous laissons pas voler la communauté. Ne nous laissons pas voler l'évangile. C'est important pour nous, chrétiens. Ne nous laissons pas voler l'évangile. Ne nous laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel. Alors, Saint François, en fait, nous ouvre une voie. Il nous donne, à travers ses écrits, ses lettres, qui sont peu connues, en fait, ses admonitions. Les admonitions, c'était les remarques, les conseils qu'a fait François en fin de vie à ses frères. Riche de son expérience, il pointait un petit peu ses frères pour leur dire « Tu vois, regarde où tu en es, regarde les actes que tu poses. » Ce n'était pas un jugement, ce n'était pas une critique. C'était pour leur dire « Regarde, tu peux poser autrement, tu peux agir autrement, tu peux faire autrement. » C'est ça, les admonitions de Saint François. Donc, à travers ses choix et ses décisions, il nous donne des pistes et des réponses pour, à notre tour, répondre aux questions que nous pose notre temps. Donc, à chacun, bien sûr, de puiser dans ce trésor, évidemment, avec sa propre histoire. Chacun a son histoire, et je crois que c'est une relation d'intimité. Voilà, c'est dans le secret d'une histoire par rapport à une autre histoire. Alors, 8 siècles séparent notre monde, qui est tellement différent, bien sûr, du sien, et pourtant, qui est très, très, très proche par certains aspects. Par exemple, l'aspect sociétal et environnemental, avec ses profondes mutations. Regardez les mutations que nous vivons à notre époque. Regardez, bon, on est tous d'un certain âge, là il y a quelques jeunettes, mais enfin, on est tous quand même d'un certain âge. On est bien conscient que notre monde vit des mutations terribles qui nous dépassent, on en est conscient. Eh bien, au temps de François, à l'époque de François, il y avait également de très grandes mutations. On passait le monde des marchands, voulait prendre le pas sur le monde féodal, il y avait des changements très, très, très importants. Donc aussi l'aspect spirituel. Avec ses errances et son immense quête, à l'époque de François, il y avait beaucoup de sectes. Il y avait beaucoup de gens en recherche. Et on voit à notre époque l'homme qui cherche, mais l'homme aussi qui est coupé de sa source. Vous voyez qu'il y a quand même des points communs. Et par l'aspect aussi relationnel, par rapport à l'Église et à ses membres. Notre Église, elle n'est pas forcément dans une situation confortable. L'Église a toujours traversé des crises, mais elle est toujours là, elle sera toujours là. Mais n'empêche que nous vivons des moments difficiles. Les chrétiens, l'Église vit des moments difficiles. À l'époque de François aussi, c'était difficile. Il y avait les hérésies cathares, il y avait beaucoup de choses à son époque. Donc vous voyez que 800 ans nous séparent, mais il y a quand même beaucoup de choses qui nous rejoignent, et donc des questions qui nous rejoignent. Alors notre pape nous dit, François propose une évangélisation qui éclaire les nouvelles manières de se mettre en relation avec Dieu, avec les autres et avec l'environnement, et qui suscite les valeurs fondamentales. Est-ce que vous voulez que je répète ?
Oui.
Oui, hein, je vais répéter. Hein. François propose, dites-moi s'il y a des mots, parce que comme je parle mal, s'il y a une question, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Je ne fais pas un cours magistral, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. François propose une évangélisation qui éclaire les nouvelles manières de se mettre en relation avec Dieu, avec les autres et avec l'environnement, et qui suscite les valeurs fondamentales. C'est écrit dans mon livre. Bon, c'est l'exhortation apostolique numéro 74. Vous le retrouverez, je suis sûre que tous vous avez l'exhortation apostolique. En fait, moi je crois que Dieu suscite ses prophètes en son temps. On nous dit, ah mais il n'y a pas de prophètes. À telle époque, il y avait des prophètes. Mais il y a plein de prophètes. Il y a plein de prophètes. Et je crois que le pape François replace Saint François au cœur de notre monde actuel. Je crois que ça, c'est clair. Alors, il est intéressant de découvrir l'intelligence spirituelle et surtout la finesse psychologique de François qui font de sa spiritualité. Ça, c'est très intéressant. Et alors, spiritualité qui est valable pour tous parce qu'elle conduit bien sûr vers Dieu, mais elle conduit vers les hommes, vers tous les hommes, tous, sans exception, vers cette nécessaire fraternité qui, je crois, et j'en suis convaincue, peut seule sauver l'humanité. Vous savez, c'est quand justement on voyage dans des pays non chrétiens ou quand on est confronté à certaines choses ou quand on accompagne des religieux qui vivent dans des pays difficiles parfois. Je vois en Syrie, comme les franciscains missionnaires de Marie auxquels je suis très très liée, on voit que c'est vraiment la fraternité qui peut sauver le monde. Et elle existe, cette fraternité. Elle est extrêmement vivante. Donc nous avons, nous, à la développer. Et ça, François nous l'apprend. Alors pour cela, je reprends quelques points clés, incontournables, de la vie de François. J'ai dit que je ne parlais pas de son histoire, mais il y a des points clés incontournables, pour mieux souligner sa dimension de prophète selon Dieu, pour mieux souligner son humanité et la nôtre. Ses questions et les nôtres, pour souligner ses interrogations, ses craintes, parce qu'il en a eu comme nous, et les nôtres. En un mot, je reprends certaines étapes de la vie de François pour souligner son actualité et l'utilité et la portée de ses réponses. C'est extraordinaire quand on se laisse pénétrer par les écrits de François, c'est extraordinaire. Quand on va sur les lieux franciscains, avec les écrits franciscains, on découvre de très 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 belles choses. Il faut du temps, mais on finit par les découvrir. Alors par exemple, l'ambition sociale qui pousse François à guerroyer. Mais nous connaissons cela, l'ambition sociale. Tous. Alors François, il voulait gagner des titres de noblesse, il s'est engagé dans l'armée du pape. Mais nous, par ambition sociale, on a fait plein de choses. Moi y compris. On connaît ça. Donc c'est pas original. Je parle bien sûr de son propre changement de statut social dès lors qu'il choisit de vivre auprès des exclus. Il choisit. C'est-à-dire que le riche bourgeois, bien connu dans sa ville d'Assise, se retrouve volontairement hors les murs, parmi les pauvres et les lépreux. On sait très bien qu'à cette époque, ce que signifiait vivre hors les murs, c'était vraiment les marginaux, ceux qui n'étaient pas acceptés à l'intérieur des villes. C'était les malades, les lépreux, les va-nu-pieds, c'était tout ce monde qui était refusé par la société. Donc vivre hors les murs, ça avait une signification immense, immense. On devenait marginal à partir de ce moment-là. Donc il va vivre parmi les pauvres et les lépreux, et ce qui va l'entraîner dans un dépassement de soi. Et ça va le rendre justement réceptif à la miséricorde de Dieu. Et là, le cœur de François, son cœur profond, commence à être touché. François commence à s'humaniser. Jusqu'à maintenant, il était riche, il faisait la fête, il faisait le foufou comme tous les jeunes. Il n'a pas fait exception à la règle. Voilà. Bon, et là, François commence à s'humaniser. Il commence à comprendre, à voir une autre face du monde. Alors, chacun de nous peut un jour avoir à vivre un tel changement de vie. Nous voyons plein de personnes autour de nous qui se retrouvent dans des situations dramatiques et qui ne l'ont pas forcément voulu. On voit beaucoup de misère, on voit avec les réfugiés maintenant, on voit beaucoup de misère, mais même il suffit d'un chômage, il suffit d'un deuil, il suffit de la perte d'un enfant, il suffit d'un événement qui nous touche, qui nous meurtrit, pour que peu à peu on se marginalise. Il faut le savoir, ça. Il faut être très humble par rapport à cela. Donc ça peut nous arriver. Or c'est là que l'on voit la pédagogie divine à l'œuvre. C'est-à-dire que Dieu se sert de tout l'homme pour l'amener à l'amour et à l'amour miséricordieux. Et donc Dieu va se servir de ce contact avec les pauvres pour justement l'amener à la miséricorde, le conduire lui-même dans ce chemin de miséricorde. Alors je reprends aussi sa rencontre avec le crucifié ressuscité de l'église de Saint-Damien. Est-ce que vous savez, vous connaissez un petit peu l'histoire, il y a le Christ de Saint-Damien, François rentre dans, il est en errance, il ne sait plus où il en est François, hein, il est un peu perdu, hein. Il rentre dans une église et là il se présente devant ce crucifix et Assise, quand on va, le crucifix authentique devant lequel François s'est présenté est toujours là et c'est un Christ qui n'est pas suspendu au clou, c'est un Christ qui ouvre les bras et qui nous dit « mais qu'est-ce que tu attends pour te jeter dans mes bras hein, ?» Le Christ de Saint-Damien c'est une pure merveille. Alors, donc, il rencontre le crucifix ressuscité, c'est-à-dire il rencontre le Christ vrai Dieu, vrai homme, et là, il fait une immense déposition. Il se dépose, il lui dit tout. Hein. Et il y a un dialogue bouleversant avec le Christ et qui va l'aider à mourir à lui-même et à renaître. C'est le tout début de sa relation avec le Seigneur, le tout début. Et je me dis, mais, et nous, n'avons-nous jamais supplié Dieu? Ne l'avons-nous jamais interrogé sur notre avenir et notre devenir? Parce que là, quand François est devant le Christ de Saint-Damien, il l'interroge. Il l'interroge sur son devenir. N'avons-nous jamais déposé notre humanité devant le Seigneur? Bien sûr que si. Là encore, on ne serait pas là si on ne l'avait pas fait. On ne serait pas là. Alors, j'insiste donc sur ce passage et j'insiste aussi sur son écoute de l'Évangile, qui est une écoute du cœur. Regardez la plupart du temps comment on écoute l'Évangile à la messe. On connaît, hein? C'est dramatique ça. Donc, écoute du cœur qui le lie définitivement à la bonne nouvelle du Christ et le met sur la route. Alors ça, c'est très intéressant parce que cette écoute du cœur, elle interroge chacun de nous parce qu'elle nous plonge au sein de l'actualité et nous confronte aux exhortations de notre pape. Allez à la périphérie. Allez à la périphérie. Vous voyez l'actualité de François, hein? Aller à la périphérie. Et François, il est parti à la périphérie parce qu'il a écouté l'Évangile avec son cœur, que ça a résonné dans son cœur, qu'il a dit « c'est ce que je veux ». Vous comprenez? Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il entendait. Mais là, cette fois-là, il écoutait avec son cœur. Et il a entendu autrement, il a répondu à l'appel. Hein, vous savez combien de fois on dit « mais Seigneur, fais-moi connaître ta volonté hein ». Moi, je dis parfois en accompagnement « mais ma chérie, mais ça fait des lustres qu'il te donne sa volonté ». Tends l'oreille, hein, tais-toi, écoute. Écoute, si tu dis de partir à droite, ne pars pas à gauche. Hein? Écoute, hein? Tais-toi, écoute. Alors, parmi ces points clés que j'aborde dans le livre, il y a aussi son apprentissage de l'humain. On ne se connaît pas. Et ça, je peux vous dire que là aussi, un accompagnement spirituel et en animant des retraites, et dans le monde, y compris dans le monde religieux, on ne connaît pas son humanité. On ne se connaît pas. Hein? On recouvre beaucoup de choses. Donc François fait l'apprentissage de l'humain, de ses forces, de ses faiblesses, de ses grandeurs, mais aussi de ses lâchetés. Il descend bas, François. Il descend bas. Vous savez, l'autre jour, j'étais à Marseille, chez les franciscains missionnaires de Marie. Je leur ai animé une retraite pendant une semaine. Ça a été très beau, c'est toujours très beau. Et il y a une grande confiance. Dès l'instant où il y a une grande confiance, c'est toujours beau. On peut aller très, très, très loin. Et le dernier jour, on a fait un partage. Les sœurs m'ont dit, tu sais, je vous le livre parce qu'on est en famille, on est entre chrétiens. Les sœurs m'ont dit, tu sais, tu nous as amenés très loin, mais tu nous as permis de déchirer le voile d'impeccabilité que nous nous mettons sur la tête. J'ai trouvé ça sublime. J'ai trouvé ça sublime. Mais quel travail nous avons fait ensemble et quelle joie! Quelle joie quand il y a eu la cérémonie de réconciliation, mais quelle joie! C'est mon cadeau. Comprenez? Alors, donc François, ben oui, il apprend à connaître ses lâchetés, il descend. Mais c'est grâce à cet apprentissage qu'il découvre et nous initie à la joie parfaite. Il nous montre qu'elle est possible, même au cœur de nos déceptions ou de nos blessures. Elle est possible, la joie parfaite, même au cœur de très grandes douleurs. Elle est possible. Et à partir de là, il nous initie au pardon et à la miséricorde. Et au repentir. C'est très important. François nous apprend ces grandes choses à partir de sa vie, à partir de ses réponses, à partir de son expérience. Il nous montre qu'il ne faut pas avoir peur de cela, que nous aussi nous pouvons franchir ce pas. Alors, François est me persuadé. C'est pas un petit saint. Hein En tout cas, il n'était pas au début. Voilà. Ce n'est pas un petit saint. Il aime persuader. Il est d'un tempérament parfois obstiné. Et il tient son opinion. Ben, il a du caractère. Hein. Bon. Et il ne craint pas de l'exprimer. Hein, le Seigneur, il ne veut pas des mots. Hein. Voilà. Donc, un des secrets de sa sainteté sera en fait sa grande miséricorde. Et il est ouvert, François est ouvert à tout ce qui lui advient. Il ne repousse rien. Alors, on sait très bien que parfois, il y a des événements dont on se passerait. Il y a des grandes douleurs dont on se passerait. Humainement, elles ne sont pas supportables. Avec le Christ, elles peuvent l'être. Humainement, elles ne sont pas supportables. Mais avec le Christ, on peut les accepter. Hein ? Donc, il est ouvert aux expériences concrètes de la vie. C'est-à-dire qu'il sait lire dans ses expériences la pédagogie divine. Plus on se pose la question, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire ? Plus on va s'approcher, plus on va aller au plus près du Christ, au plus près de la pédagogie divine. On le sait tous, on sait très bien qu'il nous faut parfois des années pour reconnaître dans un événement le bien fondé de cet événement, même s'il a été douloureux, et d'y voir la présence du Seigneur. On le sait ça. Eh bien, quand on s'approche au plus près, quand on a dans son cœur cette dimension, la pédagogie divine, et qu'on sait que Dieu est à l'œuvre, et qu'on sait s'interroger, on n'aura peut-être pas besoin d'apprendre des années pour avoir la réponse. Ça, c'est extraordinaire. Hein, c'est vraiment très, très, très important. Alors, de plus, donc, il sait tirer une leçon des rencontres et des événements. Pour lui, tout événement a un sens. On le sait, ça. On le sait. Hein. Et alors, grâce à cela, c'est grâce à cela qu'il va apprendre à développer un esprit fraternel et non individualiste. Parce qu'il va se décentrer de lui-même. Il va se décentrer de lui-même. Il va voir plus large, son regard va s'élargir. Il va élargir son regard. Au lieu d'être fixé sur l'événement et sur son problème, il va regarder plus large. Or, quand on a un problème, on est comme ça. Hein. On est comme ça. Hein. Voilà. Alors, je parle aussi, bien sûr, de la relation avec l'Église, de l'autorité, de l'obéissance, de la communion ecclésiale, et bien sûr, de la faillibilité de l'Église et des hommes qui la constituent, dont nous faisons tous partie. Alors tout cela fonde la spiritualité de François et nous rejoint dans l'aujourd'hui de nos vies. Tout cela nous apprend, en fait, François nous apprend à vivre en bonne intelligence avec l'imperfection des choses humaines. C'est très important ça. Pierre a renié, il est devenu le chef de la primitive Église. Paul, martyrisé, quel apôtre ! Donc ça nous apprend à vivre en bonne intelligence avec l'imperfection des choses humaines. Je suis imparfaite. François ne cherche pas à revêtir le masque de l'impeccabilité. Il nous fait comprendre que nous devons nous accueillir tels que nous sommes et nous mettre en marche sans nous laisser paralyser par nos lourdeurs humaines. Or, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps ? On met des masques d'impeccabilité. Ça nous tue. Parce qu'après, pour les enlever, ça prend du temps, et puis alors ça pose des problèmes. Parce que vous comprenez, là, on va vraiment découvrir comment je suis. Alors là, ça coince. Vous comprenez ? Voilà, il ne faut pas tricher. Alors, j'insiste aussi dans ce livre sur la dimension humaine et prophétique de François. Le prophète, qui est le prophète ? Le prophète, il est porteur de la parole. C'est celui qui interpelle les hommes, qui les éveille et les centre sur ce qui est l'essentiel de leur vie humaine et de leur foi en Dieu. Le prophète, c'est celui qui a de l'audace. L'audace de parler vrai, sans glose, sans peur. C'est ce que fait François. Dans le Midi, on dit il a du culot, il a du toupet. En patois, Perpignan, on dit qu'une toupette. Voilà, et bien François, il a du toupet. Il a de l'audace. Hein, il a de l'audace. Alors chez lui, et bien, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas de commentaires ni d'interprétations inutiles. Pas de critiques malveillantes. Difficile, hein ? Mais un souci constant d'avoir un cœur débordant de miséricorde. Pour lui, l'autre, quels que soient ses péchés, doit pouvoir reconnaître et ressentir cette miséricorde à la façon dont nous le regardons. Sacré exercice, hein ? On va rentrer en carême, là, c'est intéressant, hein ? Avant d'entrer en carême, là, on peut s'y exercer à ça, hein ? À regarder l'autre avec amour, hein ? À voir l'image qu'il contient, hein ? Et non pas ses failles. Alors, comment François envisage-t-il sa réalité ? Eh bien, sans mensonge, sans compromission, dans l'amour. François ne triche pas, il ne se cache pas, il se montre tel qu'il est. On a du boulot, hein ? Mais c'est possible, c'est possible. Alors, nous pensons connaître François, nous l'aimons bien tous, hein, on l'aime bien François, hein, mais nous méconnaissons souvent sa surprenante intuition et sa profondeur théologique et spirituelle. Alors, je crois intuition moins connue peut-être parce qu'il se disait idiota, c'est-à-dire ignorant et sans instruction. Il n'était pas idiot. Hein. Moins connu peut-être aussi par modestie des frères franciscains devant l'œuvre de certains théologiens, comme par exemple Thomas d'Aquin. Alors en effet, François n'a pas fait d'études. Moi je trouve ça formidable, très encourageant, ça m'a beaucoup plu. François n'a pas fait d'études. C'est formidable. Je n'ai plus de complexe à partir de ce jour-là. Hein? Il est un laïc sans culture cléricale. Pas besoin d'avoir fait des grandes études de théologie. Pas besoin. Il n'a pas de formation particulière. C'est formidable, ça, vous vous rendez compte. Il n'est pas un spécialiste de la théologie, au sens actuel du mot, c'est-à-dire théologie académique, études scientifiques de l'Écriture. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la ligne des pères de l'Église, tels Irénée de Lyon et bien d'autres, qui n'étaient pas des théologiens professionnels. C'est-à-dire qu'il pratique, selon les paroles de Jean-Paul II, la théologie vécue des saints. François vit le Christ. Il le vit. C'est ça, être théologien. C'est pas faire des blablabla. Ça veut dire qu'on peut tous l'être. Les saints, ce sont des apôtres, c'est-à-dire des envoyés, des chargés de mission, donnés par Dieu à l'Église. Comme tout baptisé, nous sommes donnés par Dieu à l'Église, en tant que baptisés. Donc la théologie de François, elle est celle de l'amour miséricordieux de Dieu. C'est-à-dire Dieu, Trinité et l'homme, ils sont amoureusement inséparables. C'est moi qui dis ça. Dieu, Trinité et l'homme, ils sont amoureusement inséparables. Ça, c'est la théologie de l'amour. Pas besoin d'avoir fait des grandes études pour cela. Ce n'est pas nécessaire. François nous apprend à aimer avec le cœur pour faire de nous de vrais théologiens. Alors, qui sont les saints, objectivement? La réponse, elle est très simple. Elle est très simple. Le saint, c'est celui qui laisse passer la lumière. C'est celui qui rayonne la présence. C'est ça, le saint. L'auréole, c'est ça. Le saint, c'est celui qui rayonne la lumière, qui est témoin de la présence du Christ en lui, de la présence de Dieu en lui, qui rayonne. C'est pas compliqué, hein? On est baptisé, on est tous en chemin de sainteté. Je peux rayonner l'image que je contiens. C'est à notre portée. Il n'est pas né saint, François, et les autres non plus. Moi, je trouve ça très intéressant. Hein? Ça m'a beaucoup encouragée, parce que grande pécheresse que je suis, ça m'a donné beaucoup de courage. Voilà. Alors, on ne peut pas parler de saint François sans mentionner la dimension symbolique et sa vie onirique. Donc, pour lui, le symbole est très important et il aura une importance très, très forte dans sa maturité, dans sa maturation spirituelle. Par exemple, il a de grandes ambitions. Il veut devenir chevalier et même prince. Être riche, bourgeois, être héritier d'un magasin qui marche bien, ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas. Il veut des titres de noblesse. Eh bien, c'est drôle, mais il va devenir chevalier de l'Évangile. Pauvre, mais riche du Christ. Ses titres de noblesse, ce sera le Christ. Ce sera son taux. Ce sera ça, son titre de noblesse. Les trois ordres, nous portons le taux. Voilà. Alors, le rêve est très important pour lui aussi. À cette époque-là, on interprète beaucoup les rêves, à l'époque de François. Alors, chacun de nous, aujourd'hui, est appelé, à un moment de son existence, à entrer en soi-même et à donner une nouvelle orientation à sa vie. Et nous faisons tous l'expérience du rêve. Qui n'a pas fait l'expérience du rêve? Et n'avons-nous pas cherché à les interpréter? Et n'y avons même pas trouvé un jour des réponses? Si. Tous, on a été confrontés aux rêves. Tous, les rêves nous ont interrogés. Tous, ils ont même orienté notre vie. Tous, ils ont attiré notre attention. On le sait, ça. Hein? Donc, vous voyez que François, il ne fait pas exception à la règle. Hein? Ce n'est pas de la magie. Il n'est pas devenu saint d'un coup de baguette magique. Alors, j'aime bien dévoiler la réalité donc humaine et spirituelle de cet extraordinaire évangélisateur qu'est François. En fait, c'est un homme grand et misérable à la fois, simple et faillible, comme tout être humain. Comme tout être humain. C'est formidable, ça. Hein? Un homme dont la conversion et le chemin de sainteté se sont accomplis graduellement, progressivement, au fur et à mesure des événements de sa vie. Mais c'est ce que nous vivons, ça. On ne devient pas saint d'un coup de baguette magique. Hein? Ce sont les événements, c'est au cœur des événements que nous apprenons à ce chemin de sainteté, comme François. Hein? Notre vie, comme sa vie, est faite de conversion permanente. C'est tous les jours qu'on se convertit, tous les jours qu'on a à se convertir, en permanence, à peine levé, jusqu'au coucher, on a à se convertir. Hein? Et donc, ça engage la totalité de notre être, corps, âme, esprit. En temps de carême, on le sait, ça, en temps de carême, nous avons à réfléchir à cette chose-là. Alors, je montre aussi un homme qui choisit l'humilité de Dieu, l'humilité de l'amour qui se fait serviteur et qui, à un moment donné, comprend que seul l'Évangile peut nous aider à répondre avec confiance et courage aux défis du monde. Dieu sait si nous en avons des défis. Dieu sait si nous en avons. Pénétrons l'Évangile et laissons-nous pénétrer par la parole. C'est ce qu'a fait François. Alors, il ne se limite pas à lui-même, comme on l'a dit. Mais justement, c'est avec son temps et dans son temps qu'il questionne l'Évangile. Parce qu'on dit notre époque, c'est ceci, c'est cela, c'est terrible. Hein, il n'y a plus personne dans les églises, il n'y a plus ceci. Allez ailleurs, allez en Corée, allez où vous voulez, les églises sont pleines. Hein, allez en Afrique, les églises sont pleines. Bon. Mais disons que notre chemin de sainteté, il se fait là où nous sommes, dans notre époque, avec notre temps. On ne peut pas le fuir de toute façon. Un jour, ma sœur franciscaine, ma sœur aînée, sœur de Saint-François d'Assise. Alors c'était mon époque, désert et compagnie, je suis passée par là. Elle m'a dit, mais tu sais ma chérie, où que tu ailles, tu te portes. Hein. Ah, là ça fait tilt. Bon, où que tu ailles, tu te portes. Donc c'est là où le Seigneur me place que je dois œuvrer. J'ai compris ça. Donc l'Évangile, on la vit avec son temps et dans son temps. Sinon, on ne peut pas être témoin. Alors, rien d'étonnant à ce que je n'ai pas résisté au désir de présenter François comme un prophète de notre temps. Et de là, à relier l'exhortation apostolique du Saint-Père à l'expérience et aux écrits de François, il n'y avait qu'un pas et c'est ce que j'ai tenté. C'est-à-dire que dans mon livre, il y a les paroles de François, il y a son expérience, et je fais en permanence un parallèle avec l'exhortation apostolique du pape François. Voilà. J'ai été très aidée dans cette marche, très encouragée en tout cas, par Monseigneur Carré, qui est l'archevêque de Montpellier, et puis mon évêque à l'époque, Perpignan, Monseigneur Marceau, qui n'est plus à Perpignan, et qui m'ont beaucoup encouragée dans cette marche. Voilà. Et alors on voit, là, justement, on voit les deux époques qui se rejoignent. C'est très, très, très intéressant. Alors voici justement ce que nous dit le pape François dans son exhortation numéro 216. « Nous tous, les chrétiens, petits mais forts dans l'amour de Dieu, comme saint François d'Assise, nous sommes appelés à prendre soin de la fragilité du peuple et du monde dans lequel nous vivons. » C'est rudement important, ça. Parce qu'au lieu de gémir sur notre monde, allez au boulot, hein. Au boulot, hein. Alors, nous découvrons, en approchant François de cette manière, un homme nouveau que nous ne connaissons pas, parce qu'il n'est pas présenté toujours de cette façon. Nous découvrons le frère, nous découvrons le spirituel en chemin de sainteté, chemin qui est aussi celui de chacun d'entre nous. Et nous voyons tout simplement, au regard de notre propre histoire, nous le voyons au regard de notre propre histoire. Il y a un parallèle qui peut être fait, puisqu'on est au cœur de son humanité et au cœur de son chemin, au cœur de ses questionnements, dont nous voyons sa dimension humaine, spirituelle et sociale. C'est-à-dire que François, il vit intensément. Il n'est pas rabougri, François. Il n'est pas rabougri, hein. Il vit intensément, il ose la vie. Il prend le risque de ses choix. Il prend le risque de l'erreur, François. Il sait s'impliquer, il sait prendre position. Moi, je dis toujours, je le vois aussi dans l'accompagnement, où parfois on me dit « Ah oui, mais tu comprends. » J'ai dit « Mais t'inquiète pas, pose ton acte, il vaut mieux poser un acte que d'être dans l'indécision, parce que dans l'indécision, le malin, il en profite. Pose ton acte, puis si ce n'est pas ce que veut le Seigneur, t'inquiète pas, il te le fera savoir. Mais n'aie pas peur, mais pose. Ne reste pas, je ne dis pas le mot parce que je serais très mal élevée, entre deux chaises, pose. » Bon, ben c'est ce que faisait François. Il prenait position. Hein. Il ose son désir. Et il sait mettre sa propre, ça c'est très fort pour nous, hein. Il sait mettre sa propre richesse à la disposition de l'Église. J'en parlais avec Monseigneur Carré, qui a lancé des idées formidables, hein, dans les diocèses, sur la fraternité, tout ça. Alors des gens sont venus me dire, oui mais tu comprends, il nous dit de faire ça, mais comment? Comment? Mais mes pauvres chéris, mais ça fait 2000 ans qu'il y en a un qui nous dit comment. Ça fait 2000 ans qu'il y en a un qui nous dit comment. Qu'est-ce que vous attendez pour lire l'Évangile? Et vous l'aurez le comment? Vous l'aurez le comment? Alors François, oui, il ose son désir, hein, il met son désir et sa propre richesse à la disposition de l'Église. Et nous voyons aussi sa relation humaine au monde, à l'humanité, à Dieu. C'est-à-dire que François, c'est un homme qui aime passionnément. Pas passionnellement, hein. C'est pas la même chose. Il aime passionnément, il aime de l'amour du Christ. C'est un homme qui a appris à aimer ses ennemis. Il en a. Ses frères lui en ont fait voir de toutes les couleurs. Ce n'étaient pas forcément des ennemis, mais enfin, quand on vit en fraternité, en communauté, ce n'est pas si facile que ça. Hein. Voilà. Donc cela nous montre l'ampleur de sa mission et il a saisi l'importance de la vie fraternelle pour l'avenir du monde. Ça, vraiment, François a saisi l'importance de la vie fraternelle pour l'avenir du monde. Donc, il nous enseigne aussi comment se faire petit, c'est-à-dire comment entrer dans cette humilité véritable de l'homme qui se sait simple créature sous le regard de Dieu créateur. C'est Irénée de Lyon qui dit ça. Vous savez, ce savoir simple créature sous le regard de Dieu créateur, c'est extraordinaire. On n'a plus à rouler les mécaniques. On n'a plus à faire de la gonflette. On n'a plus à faire croire qu'on est formidable. Je suis simple créature sous le regard de Dieu créateur. Mon Dieu, que c'est bien, que c'est confortable. On s'embête beaucoup moins, vous savez. Eh bien oui, un jour dans une conférence, une personne m'a posé une question et m'a posé une question, je ne savais pas répondre. Je lui ai dit, pardonnez-moi, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas la compétence pour vous répondre. Elle m'a dit, ah bon, comment ça se fait? Je lui ai dit, que voulez-vous, j'ai mes limites. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Si j'avais voulu faire de la gonflette, je me serais perdue dans des explications, personne n'aurait été dupe. Hein. C'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Hein. C'est simple hein, de cheminer. Mais c'est nous qui sommes compliqués. Alors François, il est bien intemporel. Quand il parle, c'est toujours à travers une expérience de vie et de foi qui rejoint l'homme et la femme de notre temps, qui rejoint notre Église, qui rejoint tous ses membres confrontés comme lui au comment faire devant ce qui se présente. C'est ce qui fait son actualité. Voilà. Et que nous dit le Saint-Père ? Témoignez à partir de votre propre histoire. Témoignez ! Ce n'est pas pour parler de soi dans les retraites, vous le savez, puisqu'on a fait plein de sessions ensemble avec... les membres de la famille franciscaine. Moi, je dis souvent, voilà, je vais vous parler de quelque chose, mais on ne peut pas parler de l'intime d'un autre. De quel droit? On ne peut pas parler de l'intime d'un autre. Donc, je vous parle d'une expérience personnelle, non pas pour parler de moi, mais pour parler d'une expérience. C'est ce que nous demande le Saint-Père. Témoignez à partir de votre propre expérience, à partir de votre propre histoire. Montrez à l'autre la grâce, montrez à l'autre la pédagogie divine, montrez à l'autre ce que Dieu a fait en vous et à partir de vous. Soyez témoin à partir de votre propre histoire. N'ayez pas peur de votre histoire. N'en ayez pas peur. Oui, on l'a dit, alors François, il est solidaire, on l'a dit, de son époque. Il est enraciné dans l'amour de Jésus. Ce n'est pas incompatible. Comment voulez-vous, à notre époque, être chrétien? Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas vrai, ça. Comment voulez-vous être franciscain? Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Rien ne nous en empêche. Au contraire. Donc François ne fuit pas. Il ne recouvre pas. Il affronte. Et il se confronte. Sous le regard de Dieu, cheminer spirituellement, le chemin de sainteté, c'est accepter la confrontation. C'est accepter la confrontation. Certes, parfois, ça fait, on n'aime pas ça. Hein. Mais si on l'accepte, on grandit. Les pères disent, quand quelqu'un te fait une remarque, même si tu le fais maladroitement, bénis-le. On a plutôt envie de lui sauter au cou. Bon, mais enfin, bon, on peut s'y exercer. Voilà. Donc, pour François, il y a une chose qui est très importante. C'est que sans l'incarnation, vécu comme un don, il ne peut pas y avoir évangélisation. François est un homme incarné. Il ose son humanité. Il la connaît. Bien. Très bien. C'est pour ça que c'est un homme très lucide. Parce qu'avant de regarder les autres, il a appris à se regarder lui-même. Donc c'est un homme incarné, François. Alors nous savons ce qu'il nous reste à faire. Hein. Alors le témoignage de François, bien sûr, nous est précieux. Pendant des siècles, on l'a associé à un poète. Et on a occulté sa redoutable lucidité. On a sous-estimé, comme je le disais tout à l'heure, la teneur spirituelle et théologique de son message. Alors certes, il avait une grande sensibilité. C'est pour ça que je l'aime aussi. Mais si François nous invite à la contemplation de ce monde, c'est pour éclairer notre existence. Ce n'est pas pour les petits oiseaux, la cui-cui-cui-cui. Ça, c'est très bien. Hein. Moi aussi, j'aime bien les petits oiseaux. Hein. Mais il n'y a pas que ça, quand même. Hein. Le monde, ce n'est pas que les petits oiseaux. Hein. Donc, c'est un homme bien incarné. Il ne se réfugie pas dans le virtuel. Dans mon livre, je parle du virtuel. Et je m'adresse aux jeunes. Je m'adresse aux jeunes. Parce que c'est une plaie, c'est un fléau, le virtuel. Et je le développe beaucoup. Hein. Et je parle aussi du transhumanisme. Transhumanisme qui promet la mort de la mort. Qui promet un monde où l'être humain aura transcendé son existence grâce à la technologie et à la science. Bref, c'est l'utopie de l'homme sans Dieu. C'est ça le transhumanisme. On en parle beaucoup maintenant. Et si vous voyez les jeunes, les gamins, avec leurs tablettes, ils ont des jeux vidéo et des CD, des films, où on leur fait croire qu'on va pouvoir tout transformer. On va pouvoir tout changer, les yeux, les oreilles, le machin, le nez, tout, 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 tout. On devient immortel. Et ils y croient, les gamins. C'est ça, le transhumanisme. Eh bien, François, ça peut paraître incroyable, mais nous apporte des réponses d'une grande profondeur spirituelle. Alors, comment ne pas aborder, dès lors, dans ce livre, la question de l'inauthentique de l'être vers son authenticité ? C'est-à-dire que Dieu appelle François au combat spirituel. Eh bien, que doit-il combattre, comme nous ? À quoi doit-il renoncer pour renaître, sinon à lui-même ? Ce n'est pas devenir des carpettes, c'est pas ça. On ne peut pas le développer là, maintenant, bien sûr. Mais nous avons à entrer dans cette pauvreté intérieure. Nous allons entrer dans le carême. Ça fait partie du temps du carême aussi. François va faire l'expérience de ses limites humaines et de ses connivences. C'est-à-dire qu'il sait très bien que le cœur peut être lieu d'adoration et de défection à la fois. Regardez Pierre, je ne te trahirai jamais. Mais il est sincère, on n'a pas le droit de douter de la sincérité de quelqu'un. Moi, vous savez, je le vois en accompagnement. On n'a pas le droit de douter de la parole, de la sincérité de quelqu'un. On n'a pas le droit. Si je dis à une personne, quel est le maître de ta vie ? C'est le Christ ? Ah oui. Mais dans les actes, moi la première, il n'est pas toujours le maître. Mais n'empêche que quand on dit oui, on est sincère. Alors on surestime notre amour pour le Seigneur et notre humanité, la réalité de notre humanité, on ne sait pas la voir. François va devoir se poser les vraies questions. Il va devoir entrer dans sa responsabilité. Il va apprendre à poser des actes qui l'engagent. On a un gros problème avec l'engagement, par contre, maintenant. Parce que notre monde vit dans la peur. Et cela a pour conséquence notre désengagement dans tous les domaines. Il n'y a plus... Les ordres religieux sont vieillissants. Il n'y a plus de novices. Les séculiers, c'est pareil. Enfin bref, l'entreprise, moi qui ai dirigé des entreprises, je peux vous dire que j'aurais plus du tout envie de diriger une entreprise maintenant. J'en aurais vraiment plus envie. Il y a un désengagement permanent, partout. Alors nous, chrétiens, essayons quand même de nous engager. Ne tombons pas dans ce piège-là. François va vivre un bouleversement de valeurs et de son monde. Il va apprendre à s'abandonner. Il ne s'appuie plus sur ses propres forces. Qui est le maître de ma vie ? François va apprendre à ne pas s'appuyer uniquement sur ses propres forces. C'est Dieu le maître. Quel travail ? Ça demande bien sûr du travail, ça demande de la confiance. Il va devoir vivre la fraternité de l'extrême, c'est-à-dire l'expérience du baiser au lépreux va lui apprendre à embrasser. Et moi je dis que, à force de... Oui, j'aime François. Mon frère m'a dit que j'aimais François, je l'aime profondément. Il m'a épinglé depuis longtemps. Et je dis que là, François apprend à aimer et à embrasser eucharistiquement. De chair à chair, de sang à sang. Est-ce qu'on est prêt à embrasser un lépreux ? Est-ce qu'on est prêt à embrasser le pauvre qui, à la sortie de l'église, nous tend la main ? Est-ce qu'on est prêt simplement à lui serrer la main ? Ah ! Dans mon premier livre, La Déposition, je raconte une histoire. Je ne parle pas de moi, mais là j'ai raconté une histoire qui m'est arrivée à Assise. Là, François, il m'a fait vivre le lépreux. Il m'a dit, tu veux être franciscaine ? Tu te dis franciscaine ? On va voir. Donc, il apprend à contempler, à aimer eucharistiquement, c'est-à-dire qu'il ne voit pas en l'autre la lèpre, il voit l'image. Il voit l'image. C'est-à-dire, quand je vois en l'autre ses défauts, ses machins, je vois sa lèpre. Est-ce que je vois mon lépreux en moi ? Est-ce que je suis capable de nommer mes lépreux en moi ? Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Alors, à la lumière de la pédagogie divine, François comprend que l'événement parle et façonne. Voilà. Et cela est valable pour chacun d'entre nous. Alors, nous pouvons nous aussi nous laisser interpeller ? Où en sommes-nous de notre rencontre avec Jésus ? Parce que pourtant, vous savez, le Seigneur, il emploie avec chacun de nous le langage que nous sommes en mesure de comprendre. Avec chacun de nous. Or, nous, quand on lui parle, vous n'avez pas remarqué comme parfois, d'abord on regarde le nombril, au lieu de bien le regarder en face, au lieu de croiser son regard. Vous avez remarqué comment on cherche nos mots parfois ? Vous avez remarqué ? On ne sait pas être simple. On ne sait pas être simple. Alors nous pouvons aussi nous demander avec François, où va l'humanité ? Pensez bien que cette question, il a dû se la poser. Quel est le sens de notre marche ? Quel est le sens de notre marche ? Nous, baptisés, chrétiens, nous tous qui sommes là, quel est le sens de notre marche ? Quel est le sens de la marche de François ? Alors c'est sa marche à lui. Chacun son charisme, chacun ses dons, chacun sa mission. On n'a pas à se mesurer. Moi, je ne peux pas me mesurer à François. Je fais ce que je peux, je suis simplement Suzanne. Donc, la marche de François, c'est le chemin de la sainte pauvreté et de la bienheureuse simplicité. Chacun sa vocation, chacun sa mission, chacun sa route. Mais n'oublions pas une chose, que la frilosité est beaucoup plus dangereuse que l'audace. Parce qu'elle maintient l'être dans la peur. La frilosité nous maintient dans la peur. L'audace nous fait franchir les murailles. Moi, on m'a dit, mais tu es folle de partir en Algérie. Mais qu'est-ce que tu vas faire en Jordanie? Mais qu'est-ce que tu vas faire en Égypte, là? Qu'est-ce que tu vas faire en Syrie? Mais tu es folle. Mais moi, vous savez, je prends la voiture, j'ai pris la voiture pour venir ici, je pouvais faire une belle morte, hein. De l'audace. Si on veut être apôtre, il faut de l'audace. Il faut de l'audace, hein. Voilà. Alors, sa lecture de l'Évangile est missionnaire. Il ne fuit pas, il ne s'enferme pas, il ose le monde. Comme on l'a dit, il ose la confrontation, il ose les différences. Il est à l'écoute des besoins du monde et des hommes. Alors j'aborde dans ce livre plusieurs sujets. L'activité apostolique, comment faire fraternité, évidemment. Hein, j'aborde tous ces grands sujets. Et je dis que François, il évangélise de cœur à cœur. C'est pas du blablabla qu'il fait, François. Parce que des beaux discours, il y a plein de gens qui peuvent en faire. Hein, ça rentre par là, ça sort par là. Il y a plein de gens qui sont capables de faire des discours. Parler avec le cœur, avec ses tripes, c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Donc François, il évangélise de cœur à cœur. De personne à personne. C'est ce que nous demande le Saint-Père. Hein. De larme à larme, de joie à joie, dans la foi. Je répète, de cœur à cœur, de personne à personne. Est-ce que quand j'écoute quelqu'un, j'écoute la personne? Est-ce que je vois la personne qui me fait face? Est-ce que je vois la personne qui est image de Dieu, qui est créature de Dieu? Est-ce que je vois ça? De larme à larme, est-ce que je prends le temps d'essuyer les larmes des autres, de prendre l'autre dans les bras? Est-ce que j'ose prendre quelqu'un dans les bras qui pleure? Est-ce que j'ose? Un jour à l'église, je vous raconte des petites histoires comme ça, parce que c'est très beau. Dans ma paroisse, il y a une femme que je trouvais très belle, très, très délicate. Et j'étais en train de faire la crèche et elle vient me dire bonjour. On ne se connaissait pas plus comme ça. Et elle se met à me parler, elle a un cancer très grave. Et à un moment donné, elle me dit, vous savez, je n'arrive pas à pleurer. Et je lui ai dit, je vais tutoyer. Je lui ai dit, ose tes larmes, elles vont humidifier ta terre intérieure, elles vont faire fleurir ton jardin intérieur. Je l'ai prise dans les bras. Des sanglots, ça l'a libérée. Est-ce qu'on ose faire ça? On a peur, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'il va dire, vous comprenez, on ne sait jamais. Hein? Comprenez, c'est embêtant, qu'est-ce qu'il va penser l'autre? On a peur d'être jeté, et alors, si l'autre me jette, où est le problème? Moi j'ai posé un acte en Christ. Alors elle va me jeter peut-être l'autre, elle ne va pas accepter mes bras, peut-être. Mais ça va quand même lui donner à réfléchir. Le Seigneur, moi j'ai dit après au Seigneur, mais écoute Jésus maintenant, à toi, c'est ton boulot. Hein. Moi j'ai fait mon boulot, à toi maintenant. Hein. À toi, moi j'ai fait mon boulot, à toi maintenant. Parle à son cœur. On n'ose pas faire ça, hein. Faut le faire ça. Hein. Il faut le faire. Hein. Donc sommes-nous des témoins joyeux? Regardez les gueules que l'on se tire à l'église. On dirait qu'on va à l'abattoir quand on va communier. Paix du Christ. Mais c'est dramatique, ça. Est-ce que quand on sort de l'église, on est joyeux? Est-ce qu'on on donne envie aux gens de venir nous parler quand on sort de l'église? À Bagnoules, je suis enrhumée. Pourquoi? Je vais vous le dire. Tout Bagnoules s'est enrhumé. Mais on se bisoute tous. Hein, mardi, j'étais à la messe. On s'est tous bisoutés, évidemment. Hein? Oh, tu sais, je suis enrhumée. C'est pas grave, ma chérie. Voilà. Du coup, je me suis enrhumée. C'est ça, l'esprit de fraternité. C'est ça l'esprit de fraternité. Voilà. Alors, donc, comment ne pas parler, bien sûr, du François mystique théologien et surtout de son intuition théologique. Alors, il est très difficile d'en parler comme ça. Ça se lit, ça se médite, cela. Mais bien sûr, j'aborde de grandes questions ou interrogations sont posées dans ce livre. Et je les aborde à la demande de mon frère Tadé Matura, qui m'a toujours beaucoup soutenu dans mon écriture et qui m'a même, parfois, donner des écrits inédits pour que je les mette dans mon livre et que Dieu le bénisse. Et donc j'aborde grandes questions, interrogations. Qui est d'après François ce Dieu en qui nous sommes appelés à croire? Comment le rejoindre et en témoigner? Qui est cet homme à qui Dieu s'intéresse tant? Il y a de très belles réponses. Hein? Donc François nous aide à redécouvrir le sens du mystère. Il nous aide à nous y abandonner et à l'accueillir. Vous savez, tout à l'heure, nous sommes allés aux obsèques de la maman d'une de nos sœurs franciscaines. Il y avait une dame qui était là et qui m'a dit, bon, je suis chrétienne, oui, mais enfin, moi, je ne réagis pas comme ma belle-sœur, je ne mets pas Dieu partout, je ne mets pas... Bon, mais elle est chrétienne. C'est bien. J'ai dit, mais c'est bien ça, bon. Mais... Et alors, on parlait de la mort et de l'approche des mourants et de ce qui peut se passer parfois en approchant les mourants. On apprend beaucoup en accompagnant les mourants. Ils nous apprennent beaucoup. Et alors, elle me disait quand même, moi, je ne vois pas Dieu partout, mais quand même. Ben, j'ai dit oui, mais quand même. Et ben, je lui ai dit, ben oui, parce que dans ces cas-là, nous approchons le mystère. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, on est confronté au mystère. Et il faut accepter qu'il n'y ait pas de réponse ici-bas. Mais chrétien ou pas chrétien, on est confronté au mystère et ça nous touche. Et ça nous touche en profondeur et ça interroge. Et elle m'a dit oui. La belle-sœur de Michel, elle m'a dit oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça interroge en profondeur, on se dit quand même. Alors moi, dans ces cas-là, j'en rajoute, et je lui ai dit, ben oui, quand même, il y a quelqu'un au-dessus de nous. Hein. Dieu est là. Hein. Il faut oser prononcer le nom de Dieu. En politique, ils osent. Hein. Il faut oser le nom de Dieu. On se fait ramasser, c'est pas grave. On se fait jeter, c'est pas grave. Il faut le faire discrètement, intelligemment. Mais il ne faut pas rater une occasion. Il ne faut pas en rater une. C'est ce que nous demande le Saint-Père. Hein, voilà. Donc François, il nous aide à entrer, à découvrir le sens du mystère. Et dans sa lettre à tous les fidèles, c'est-à-dire à nous tous, il nous guide d'une façon magistrale sur le chemin de la communion à la vie trinitaire. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre, et ça, pour moi, c'est, je l'ai développé, l'inhabitation, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il nous fait comprendre que l'intimité, écoutez bien, parce que c'est très important, que l'intimité avec notre Seigneur est à la portée de tout homme, de toute femme qui désire servir Dieu. Nous pouvons être dans une relation intime avec le Seigneur. C'est possible. Il n'attend que ça. Il ne désire que ça. Eh bien, ce passage que j'écris dans le livre, il est capital pour l'évangélisation. Il est très, très, très important. Alors, je laisse au lecteur, bien sûr, le soin de le découvrir. Alors, je conclus cet ouvrage en parlant de la dynamique de François, parce qu'il galopait François, de son expérience de l'amour et de la beauté, de ce qui est grand et juste. Moi, j'aime le beau, le bien et le bon. J'aime le beau, le bien et le bon. Hein? J'aime la beauté. Et François nous engage à cultiver le beau, le bien et le bon. Hein? Le Seigneur a donné des frères à François, mais il y a eu aussi Claire, hein? Jacqueline, la première, on pourrait dire que Jacqueline de Cétézol, c'était une femme romaine qui était très proche de François, qui l'a beaucoup aidé. Et on peut dire qu'elle est la première tertiaire franciscaine, Jacqueline de Cétézol. Hein? Marie, la Vierge Marie, ce sont ces trois femmes. Ce sont les trois femmes de François. Et chacune a contribué à son chemin de sainteté. Donc je parle du rôle de la femme dans mon livre. Parce qu'entre nous soit dit, je dis que les églises, elles sont ouvertes. Parce que les femmes, y sont dedans. Hein? Comme dit mon curé, mes saintes femmes. J'ai dit heureusement que vous les avez, vos saintes femmes, parce que sinon l'église, la paroisse, elle serait fermée. Hein? Voilà. Les églises sont ouvertes parce que les femmes sont là. Au pied de la croix, il y avait une femme. Au tombeau, il y avait les femmes. Dans l'église, il y a les femmes. On a un rôle très important à jouer. Les hommes aussi, hein? Hein? Les hommes aussi. Hein? Voilà, les hommes aussi. Voilà. Ensemble. Mais la femme, elle évangélise. Elle adoucit le cœur de l'homme, la femme. Il suffit de voir la manière dont Claire a aidé François. Elle l'a aidé à devenir un homme. Alors pourquoi, on va conclure avec ça, parce que vous devez en avoir marre. Pourquoi François est-il toujours actuel? Moi je dis peut-être à cause de sa simplicité, peut-être parce qu'il est profondément humain, ou encore parce qu'il est imprévisible et qu'il sait nous surprendre. Ça c'est très intéressant. Vous savez, dans les vieux couples, bof, il faut apprendre à se surprendre. Il faut faire des bêtises, il faut apprendre à se surprendre. Oui, il faut oser. Hein? Ben, François, il nous surprend encore. Fou de Dieu, mais il est profondément attaché à cette terre. Moi aussi, je suis attaché à cette terre. J'ai pas envie de mourir, là, maintenant. Donc, prophète de l'extrême, François appelle. Et chacun de nous peut apporter sa réponse en relation avec sa propre vie. François a apporté sa réponse. C'est la sienne. Elle est intéressante, pour elle nous donne des indications, elle nous donne un sens. Mais chacun a apporté sa réponse en relation avec sa propre vie. Moi, si je suis ici avec vous, c'est toute mon histoire qui est derrière. Toute mon histoire est derrière. Tout simplement. Hein? Alors, Jésus-Christ dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. François dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. C'est important, ça. Hein? Hein? C'est pas faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, enfin, je ne sais plus, enfin, bref. Bon. Rien n'arrête Jésus pour l'amour du Père. Rien n'arrête François pour l'amour de Dieu, même pas la maladie. Jésus aime ses frères et ses sœurs en humanité et il aime la création. Et François chante le cantique des créatures. Il se sait frère de tout ce qui vit. Alors on a dit, quel poème le cantique des créatures ? J'en parle dans mon livre, mais pas du tout. C'est un monument théologique. C'est un monument, le cantique des créatures. Un monument que l'on n'a pas su décrypter. On en a fait un poème. Certes, c'est très beau, hein, mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc, il chante le cantique des créatures, il se sait frère de tout ce qui vit, et c'est alors qu'il peut dire en lui-même. Parce que pour vraiment que ça passe en l'autre, pour que ça produise en l'autre quelque chose d'extraordinaire qui va réveiller l'autre, qui va le mettre en relation avec le Seigneur, il faut que ce soit vécu au fond de notre cœur. Et là, François, il peut dire « paix du Christ ». Et quand il dit « paix du Christ », ça porte. Ça porte. Alors, je souhaite, peut-être que certains l'ont lu, ou peut-être certains le prendront, il n'y a absolument aucune obligation, je souhaite que ce livre donne envie à chacun d'agir et de s'engager. Alors, je vous dis à tous, pace bene. C'est le salut franciscain. Merci à vous tous de m'avoir supporté jusqu'au bout.
Saint François d'Assise et la miséricorde de Dieu, vous venez de suivre une conférence de Suzanne Giuseppi Testu, auteur de l'ouvrage François d'Assise, le prophète de l'extrême, paru aux éditions Nouvelle Cité. L'intervention de Suzanne Giuseppi Testu a été enregistrée à Pau, au centre diocésain du Béarn, le 4 février 2016.